du classique, de commencer à les décaler un peu, ça fait penser à ce qui se passera dans l'art pictural plus tard. C'est une déclaration de voilà ma méthode aussi. Voilà comment je vais écrire, moi. Moi, je ne vais pas vous faire des longues phrases que vous allez pouvoir chanter dans la rue en sortant du concert en vous disant que je suis un génie de la mélodie, comme c'est le cas de Mozart ou Mendelssohn. Et moi, je ne vais pas vous proposer de l'art galant avec des courbettes.
Sa personnalité, elle transparaît quand même beaucoup dans ses œuvres et ça prend de la place. On sent qu'il y a un tempérament très, 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 très fort, très, très entier, caractériel. Donc on se sent un peu toujours tiré vers les extrêmes, l'intensité de l'énergie ou l'intensité de la désolation ou de l'intimité.
La situation professionnelle de Beethoven est solide et la rente que lui attribue le prince Lichnowsky lui assure un certain confort. Mais à l'été 1801, il confie par écrit à ses deux plus proches amis, Franz Wegeler et Karl Amenda, un lourd et douloureux secret. Il est en train de devenir sourd.
Je souhaite si souvent t'avoir auprès de moi. Car ton Beethoven mène une vie bien malheureuse. Ce que j'ai de plus précieux, mon ouïe, a beaucoup baissé. Je le sentais déjà naguère quand tu étais chez moi, mais j'ai préféré n'en rien dire. Désormais, cela ne cesse d'empirer. Oh, quel bonheur ce serait si mon ouïe était parfaite. Je me précipiterais chez toi, mais je dois me tenir à l'écart de tout. Tu auras peine à croire quelle existence désolée, mélancolique j'ai menée depuis 2 ans. La faiblesse de mon ouïe m'a fait partout l'effet d'un spectre. Je fuyais le monde.
Beethoven a remarqué dès 1801-1802 que quelque chose n'allait pas avec ses oreilles. Il avait toujours des bourdonnements, ce que nous appelons aujourd'hui des acouphènes. C'était donc une situation extrêmement difficile pour lui, de comprendre qu'il ne pourrait plus travailler comme virtuose itinérant, comme pianiste, qu'il ne pourrait plus diriger non plus. C'est peut-être le moment où Beethoven comprend qu'il doit devenir compositeur professionnel, donc vivre seulement de ses compositions et de la vente de ses œuvres, et non plus comme musicien.
J'ai plus d'une fois déjà maudit le Créateur et mon existence. Plutarque m'a amené à la résignation. Je veux braver le sort.
Il dit que son génie va triompher, quelles que soient les défaillances du corps. Il s'est accroché pour dire qu'il sentait quelqu'un qui avait la capacité de produire des œuvres extraordinaires. Il s'est inscrit dans une position de héroïque, hein, de héros. C'est ce qui apporte quelque chose de nouveau à leurs concitoyens et qui ont une espèce de mission, on peut dire, pour entraîner les autres.
Beethoven parvient à braver le sort, à surmonter ses souffrances, et ses forces reviennent, comme en témoigne la lettre adressée à Wegeler 5 mois plus tard, le 16 novembre 1801.
Ma force physique s'accroît comme jamais depuis quelque temps. Et il en est de même pour mes forces mentales. Je veux prendre le destin à la gorge. Celle qui accomplit ce changement est une aimable, une charmante jeune fille qui m'aime et que j'aime.
Elle s'appelle Giulietta Giocardi. Beethoven lui dédie la sonate opus 27, numéro 2, dite « Sonate au clair de lune ».
Depuis 2 ans, je suis à nouveau comblé d'instants de bonheur et je ressens, pour la première fois, qu'un mariage pourrait me rendre heureux. Malheureusement, elle n'est pas de mon rang. Et je ne pourrai évidemment pas l'épouser.
Ich glaube, wenn wir heute
Je crois que lorsqu'on pense aujourd'hui à Beethoven, le grand compositeur, on oublie facilement que les frontières entre les rangs sociaux à l'époque étaient importantes. Et que pour Beethoven, il n'était absolument pas question d'épouser une dame noble ou d'avoir une relation avec elle.
Beethoven a 30 ans. Il prend à cette période un tournant en musique.
Je ne suis guère content de ce que j'ai écrit jusqu'à présent. À partir de maintenant, je veux ouvrir un nouveau chemin.
Les sonates opus 31 paraissent peu après. Elle marque une étape importante dans l'écriture de Beethoven. Il y expérimente structure, durée et surprise des tonalités.
Une œuvre révolutionnaire. Et numéro 2, La Tempête, c'est un dramatisme qui n'avait pas existé à ce point-là. Une utilisation du contrepoint dans le dernier mouvement qui a cette belle phrase « Paris-le-Lam, Paris-le-Lam, Paris-le-Lam » qui se répète tout le temps. Et la main gauche, c'est comme un cheval « Oh, 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 oh » qu'on entend. Je dois le dire rarement chez le pianiste, par exemple. Oh, oh, oh. C'est pour ça qu'il faut une indépendance des mains qui n'est pas facile. Sonate pour piano et le quatuor. C'est ça qui a le vrai fil conducteur. C'est ça le journal intime. Une raison pour laquelle ça devient un journal intime, parce que c'est les sonates pour piano et le quatuor qu'il a écrit continuellement depuis très jeune jusqu'à la fin de sa vie.
En mai 1802, sur les conseils de son médecin, Beethoven s'installe dans la petite ville d'Eau d'Heiligenstadt. Là, il rédige une bouleversante lettre testament adressée à ses frères.
Il s'est rendu compte qu'après cet été-là, eh bien, sa surdité ne régressait pas. Donc c'est un coup énorme, c'est très très dur. Et pour assumer, on va dire, ce constat épouvantable, eh bien, il a mis par écrit un texte et qui s'adresse à l'humanité entière plus qu'à ses deux frères et qui a donné une vision très particulière de Beethoven, très, j'appelle, doloriste.
Pour mes frères Karl et Johann Beethoven. Ô vous autres qui me croyez hostile, buté ou misanthrope, quelle injustice vous me faites. Depuis l'enfance, mon cœur et mes sens étaient faits pour le délicat sentiment de bienveillance. Mais songez seulement que je suis atteint depuis 6 ans d'un mal incurable. Né avec un tempérament ardent et actif, porté aux distractions qu'offre la société, il me fallut très tôt m'isoler et passer ma vie dans la solitude. Il ne m'était pas possible de dire aux gens « Parlez plus fort, hurlez, je suis sourd !» Ah, comment admettre la faiblesse d'un sens qui devrait être chez moi d'un degré plus parfait que chez quiconque? Quelle humiliation lorsque quelqu'un qui se tenait près de moi entendait au loin le son d'une flûte, tandis que je n'entendais rien. Ces événements me menèrent au bord du désespoir.
Je ne peux pas imaginer ce que Beethoven a pu penser quand il a commencé à se rendre compte qu'il perdait son oreille. Je me l'imagine assis en se rendant compte qu'il n'entend pas et cherchant l'oreille intérieure. Ça, c'est la plus grande difficulté d'un chef d'orchestre. Avant de donner la levée pour la première note d'une œuvre orchestrale, il doit déjà l'entendre avec son oreille intérieure. Ça veut dire que l'oreille intérieure d'un chef d'orchestre est toujours en décalage avec l'oreille extérieure. Parce que la relation d'un être sourd avec l'oreille intérieure est différente d'un être qui n'est pas sourd. Il n'a pas le conflit. Il n'a pas le conflit. Il entend seulement ce qu'il imagine. Il entend seulement avec l'oreille intérieure. Je trouve ça, c'est un aspect qui m'a toujours fasciné.
Pour un peu, j'aurais mis fin à mes jours. C'est l'art. Et lui seul qui m'a retenu. Ah, il me paraissait impossible de quitter ce monde avant d'avoir donné tout ce que je sentais germer en moi.
Il pensait sérieusement à celui-ci. Qu'est-ce qu'il a écrit parallèlement? La deuxième symphonie. Peut-être une des œuvres les plus légères, heureuses, de toute sa composition.
Donc il s'installe dans cette position de, oui, on peut dire christique, hein, de, il assume alors le fait d'accepter sa surdité parce qu'il se sent le devoir d'apporter aux êtres, il le dit, aux hommes, ce qui va leur permettre de devenir, d'accéder à la joie.
Après la crise d'Heiligenstadt, Beethoven rentre à Vienne et tait le drame qu'il vit. Pas un mot de son état, ni de sa souffrance. Ses amis décrivent un homme enjoué, aimant la plaisanterie, heureux de vivre, caustique et souvent même satirique. Il entre dans une intense période de travail, avec en tête la troisième symphonie. L'œuvre s'intitule « Symphonie Bonaparte » car Beethoven voit en lui le héros libérant l'Europe des féodalités. Mais lorsque Beethoven découvre que Bonaparte s'est fait empereur, il se ravise et se serait même écrié
« Ce n'est donc rien de plus qu'un homme ordinaire. Maintenant, il va fouler aux pieds tous les droits humains. Il n'obéira plus qu'à son ambition. Il deviendra un tyran. »
C'est ainsi que la Symphonie Bonaparte est rebaptisée Symphonia Heroica. L'héroïque est révolutionnaire à plusieurs égards. Sa durée est sans égale dans la musique symphonique, ainsi que sa construction et ses longs développements. Beethoven a 35 ans et il tombe à nouveau amoureux. L'objet de sa flamme est une amie de longue date, Joséphine von Brunswick, un sentiment partagé par la jeune femme, mais la famille s'oppose à leur union. Ils étaient nés l'un pour l'autre et ils vivraient tous les deux s'ils s'étaient unis, écrira Thérèse, la sœur de Joséphine.
Vous étiez si triste hier, Joséphine chérie. Est-ce que je suis à ce point incapable d'exercer une quelconque influence sur vous? Vous en avez tant sur moi. Vous me rendez si heureux. Ne vous abandonnez donc pas ainsi à votre penchant pour la mélancolie. Quelle douleur de vous voir ainsi. Je viendrai chez vous demain soir. Tous mes meilleurs vœux, ange de mon cœur.